Donc, discussion des droits de l'homme, mettre les droits de l'homme vraiment au centre des débats, à la fois au niveau national et international. Ensuite, l'universalité de l'examen périodique universel, c'est contenu dans le mot. Ça touche deux aspects. C'est un aspect important du succès de l'EPU. C'est tout d'abord les pays. Donc, l'EPU examine tous les pays du monde tous les 4 ans et demi. Donc, de 2008 à 2011, les 192 pays des Nations Unies ont été examinés. Puis en 2012, on a commencé à réexaminer chacun des pays. Donc, de 2008 à 2011, tous les pays se sont soumis au processus de l'examen périodique universel. Et ça, c'est un succès. Il n'y avait pas d'autres mécanismes auparavant qui analysaient la situation, qui avaient pu analyser la situation de tous les pays du monde jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment un succès de l'EPU d'avoir pu amener chaque gouvernement du monde entier à Genève pour présenter sa situation des droits de l'homme et rendre des comptes sur la politique qu'il menait dans son pays. J'y reviendrai un petit peu après. Et puis, sur les thèmes, notamment l'universalité des thèmes, c'est-à-dire que l'EPU couvre une multitude de thèmes et les États peuvent facilement amener des nouveaux thèmes à l'EPU. Donc, les pays, je l'ai dit, 100% en participation. 80% des pays avaient amené des ministres ou niveau équivalent de la capitale. Donc on a eu des vice-présidents, des ministres des Affaires étrangères, des ministres de la Justice, ministres des Droits de l'Homme. Donc ça a vraiment, il y a eu un engagement de la part des États à vouloir discuter des droits de l'homme au niveau international, mais avec un engagement sérieux, avec des personnes qui comptent dans le pays et qui ont un pouvoir également après de décision pour ce qui est de la mise en œuvre. Et engagement des pays, puisqu'on a, lors du premier cycle, 70%, 70% des recommandations ont été acceptées par les États. En plus de participer, ils ont massivement accepté les recommandations qui leur ont été faites. Puisque les États ont le choix d'accepter ou de rejeter les recommandations à l'EPU. Alors, pour ce qui est aussi des États examinateurs, on a eu aussi une grande participation des États examinateurs. Plus de 150 pays ont pris la parole sur les pays examinés. Et puis, 21 000 recommandations ont été faites lors du premier cycle. Donc, il y a eu un grand nombre de recommandations qui ont été faites lors du premier cycle, qui démontrent l'engagement des États à l'EPU et le succès aussi, la participation des États en tant qu'examinateurs. En termes de thème, c'est le premier mécanisme droit de l'homme qui couvre tous les thèmes, puisque à côté de ça, il y avait les organes de traité qui s'occupent de l'application d'un traité spécifique, traité sur les droits civils et politiques, traité sur les droits économiques, sociaux et culturels, traité sur convention sur les disparitions forcées, etc. Donc l'EPU vraiment présente l'avantage d'englober tous les thèmes. Les pays n'ont pas besoin d'avoir ratifié une convention pour être examinés à l'EPU. Et enfin, certains pays, notamment l'Égypte, lors du début du premier cycle, avaient essayé à ce que les termes sur sur l'orientation sexuelle et les questions de genre ne soient pas abordés à l'EPU ou tout du moins ne puissent pas être inclus dans le rapport qui est fait à la suite de l'examen de chaque pays. Puisqu'à la fin de l'examen de chaque pays, un rapport est publié par l'ONU qui contient un résumé des discussions et la liste de toutes les recommandations qui ont été faites à ce pays. Eh bien, l'Égypte était opposée à ce que dans ce rapport, on mentionne les thèmes liés à l'orientation sexuelle et au thème des genres. Et puis, cette tentative de l'Égypte a échoué. Et donc maintenant, ce thème est régulièrement débattu par tout le monde et est régulièrement repris dans les rapports, évidemment, qui sont juste censés être un résumé factuel. Donc il y a eu des tentatives qui ont échoué. Donc l'EPU présente vraiment l'avantage pour les États de soulever n'importe quel problème sur n'importe quel pays. Par exemple, les États-Unis qui n'ont pas ratifié la Convention des droits de l'enfant ou la Convention toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, eh bien, ils ont malgré tout reçu des questions et des recommandations sur les droits des femmes, les droits de l'enfant. Alors là, c'est un aspect intéressant de l'EPU que j'aimerais aborder. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les organes de traité ou les procédures spéciales qui qui sont d'autres mécanismes des droits de l'homme. Voilà, je vais peut-être avancer un peu plus rapidement là-dessus, mais l'EPU est le troisième mécanisme des droits de l'homme qui a été créé par l'ONU après les organes de traité et les rapporteurs spéciaux. Les organes de traité sont les organes qui examinent la mise en œuvre des conventions. Donc si un État a ratifié une convention, des experts vont examiner de quelle manière cet État met en œuvre la convention dans son pays. Et les rapporteurs spéciaux sont des individus, des experts nommés par l'ONU pour enquêter sur un thème spécifique, visiter des pays sur, par exemple, la détention arbitraire. Donc là, c'est un groupe de 5 personnes qui va visiter les pays pour voir la situation de la détention arbitraire dans ces pays. Ou le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, un Suisse qui était ancien rapporteur, Jean Ziegler, qui allait dans les pays et publiait des rapports sur le droit à l'alimentation. Voilà, entre ces trois mécanismes, il y a des interactions, et ça c'était une des craintes quand l'EPU a été créé, que l'EPU diminue les autres mécanismes, ou les remplace, etc. Donc là l'idée c'est de montrer qu'il y a des grandes interconnexions entre ces mécanismes. À l'EPU notamment, beaucoup de recommandations sont faites, demandant aux États de ratifier les conventions. 2000, comme on le voit, 350 recommandations sont faites aux États pour leur demander de soumettre leurs rapports aux organes de traité. Donc, c'est des États qui sont, par exemple, membres, qui sont partis de la Convention sur les droits des personnes en situation de handicap et qui n'ont pas encore soumis un rapport sur la manière dont ils ont mis en œuvre cette convention. Eh bien, à l'EPU, on leur rappelle cette nécessité de soumettre leurs rapports à l'organe de conventionnel en charge de cette convention. Et puis ensuite, invitation aux rapporteurs spéciaux pour qu'un expert qui travaille sur le droit à l'alimentation visite un pays, il doit être invité par ce pays. Donc à l'EPU, il y a 500 recommandations qui ont été faites aux États pour leur dire d'inviter les rapporteurs spéciaux à venir chez eux. Donc l'EPU a servi à renforcer les deux autres mécanismes des droits de l'homme qui existent, les rapporteurs spéciaux, procédures spéciales et organes de traité.